Bonjour. Bonjour. Alors, simplement pour situer les gens qui vont écouter les enregistrements, si vous regardez sur le site Internet, j'étais absent dimanche dernier. Donc, bonjour, Madame Grimard. Donc, j'étais absent la semaine dernière et ce que ça veut dire, c'est que j'ai eu un remplaçant la semaine dernière, on n'a pas avancé la leçon. Donc, nous continuons, nous terminons la leçon 5. Sur les notes, il va y avoir des notes avec l'en-tête leçon 5B pour ceux qui voudraient suivre à partir des enregistrements sur le site Internet. Pour ceux qui sont avec moi ce matin, vous avez des feuilles de notes qui sont là à l'arrière. C'est les notes 5B. Si vous avez avec vous vos notes 5A, puis vous allez à la fin, vous allez voir qu'il y a quelques paragraphes qui se répètent. Je voulais juste être certain que vous puissiez suivre avec moi. Je vais juste aller dans un mot de prière avant. Et je ne travaillerai pas avec le PowerPoint. D'accord? Je suis désolé, c'est trop compliqué pour moi, là. Ça va trop vite. Alors, pour cette fois-ci, on va laisser faire le PowerPoint. On va y aller avec des feuilles. Ah, ça ne sera pas? OK. On va aller dans un mot de prière. Madame Healy, vous êtes bienvenue à vous joindre à nous. Madame Jessica Healy? Non? OK. Ça va se rendre là éventuellement. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, ça me touche d'étudier le livre des Actes et le Nouveau Testament et de voir la place que tu prends comme personne dans la révélation de Dieu. De voir tout le langage des adorateurs qui change pour te donner une place tellement importante, Seigneur. Ça me touche parce que tu es un être personnel, tu es vraiment l'incarnation de Dieu, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il me semble que tout devient plus accessible avec toi, Jésus. Et Seigneur, ça me touche parce que tu m'as donné accès au Père, malgré tout ce que j'ai pu faire qui peut me faire tellement honte, Seigneur, et que je voudrais effacer de mon histoire dans ton ardoise à toi, Seigneur, ça a tout été effacé. Tu ne tiens plus compte du pécheur que je suis, mais tu regardes à moi comme celui qui a été sanctifié, purifié en Jésus-Christ. Viens nous instruire ce matin, viens nous apprendre à adorer, viens nous aider à être des fins observateurs, des premiers chrétiens pour voir qu'est-ce que c'était adorer? Qu'est-ce que c'est un adorateur en esprit et en vérité, selon le livre des Actes, Seigneur? Viens nous faire grandir. Nous voulons marcher remplis de ton Esprit Saint. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, on est en train d'étudier qu'est-ce que c'est être un adorateur en esprit et en vérité. On part de cette phrase-là qui est un petit peu énigmatique du Seigneur lorsqu'il parle avec la Samaritaine. Mais on veut observer, on veut examiner comment ça se passe dans le Nouveau Testament. On veut voir ce qui change et ce qui demeure. Est-ce que vous voudriez juste vous avancer et avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, donner des pistes, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Qu'est-ce que Jésus pouvait avoir en tête lorsqu'il a dit, les adorateurs que le Père recherche, c'est des adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Et restez pas sur le passage lui-même, d'accord? Parce que ça, c'est assez mystérieux. Pensez à ce qu'on a commencé à voir dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'on a comme éclaircissement? Quelqu'un qui veut s'essayer? Oui, Camille. OK, Jésus annonce un changement. Il va y avoir une coupure. Ça se passera plus sur cette montagne ou à Jérusalem, mais en esprit, en vérité, il va y avoir un changement. Quelle sorte de changement on a commencé à voir apparaître? Est-ce que vous avez des idées? Excusez-moi. Ben, la notion du temple qui change de manière majeure, c'est le Fils qui est le temple. Qu'est-ce que ça a comme impact? D'accord, Jésus-Christ est venu accomplir tout ce que le temple annonçait. Donc, le temple n'a plus lieu de jouer le même rôle, même de jouer un rôle tant qu'à ça, sinon peut-être mémorial. Qu'est-ce que ça vient changer dans la vie des croyants comme adorateurs, ce que Jésus a accompli par rapport au temple? Qu'est-ce que ça va changer? Pardon? Alors ça, c'est quelque chose de majeur. On peut adorer là où nous sommes, n'importe où, juste en s'adressant à Dieu. C'est quelque chose de majeur parce que ça veut dire qu'on n'associera pas Dieu avec un lieu saint. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, il y a plein d'endroits où il y a eu des rencontres spéciales avec Dieu. Et ces endroits-là étaient souvent marqués. On les identifiait parce que Dieu est venu ici. Bethel, Dieu s'est manifesté ici. Lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, si Christ a accompli tout ce que le temple annonçait, je peux rencontrer Christ partout. Donc, mon adoration ne sera jamais associée avec un lieu sacré. Et là, déjà, on peut penser à tout un pan du christianisme qui a manqué la plaque là-dessus complètement. Là. D'accord? Qui se disent chrétiens, mais qui ont plein de lieux sacrés. Où on fait des pèlerinages comme l'islam peut faire des pèlerinages. Camille avait la main levée, puis Paul. Oui, juste un instant, Paul. OK. Comme tout est accompli dans le temple, ben tous les rituels qui étaient liés au temple, qui nous amenaient à exprimer notre adoration à Dieu, parce qu'on reconnaissait qu'on était pécheurs en allant offrir des sacrifices, tout ça s'est accompli. Ça va être un autre mode d'entrer en communion avec Dieu qui va apparaître. Puis c'est ça qu'on essaie d'observer un peu chez les premiers chrétiens. Paul, une dernière intervention. Oui. Le fait qu'il nous a donné son esprit, maintenant dans un sens vrai, mais comme on l'a vu, il y a plusieurs sens au temple dans le Nouveau Testament, d'accord? Il y a notre corps, il y a l'Église qui est une maison spirituelle, il y a Christ lui-même qui accomplit le temple. Donc dans un sens, ce que Paul souligne, c'est que le fait que l'Esprit Saint habite en nous, est-ce qu'il n'y a pas une dimension sacrée à ce qu'on fait avec notre corps, à ce qu'on est comme personne? Oui, définitivement. On ne l'a pas vu encore, par exemple. D'accord? C'est pour ça que je posais la question, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? La notion de notre corps qui est un temple, tout ça, on ne l'a pas vu encore. Mais c'est juste, c'est vrai. OK, alors, ce matin, on va terminer la leçon 5. Vous devez prendre les feuilles pour avoir la deuxième partie 5B. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'essayer, on est en train d'observer comment les premiers croyants, salut Daniel, salut André, comment les premiers croyants se comportent, qu'est-ce qu'ils font? On veut, dans le fond, là, c'est comme si c'est un laboratoire pour nous, puis on regarde les premiers chrétiens, puis on les examine, on est l'autre bord de la vitre, puis on dit, qu'est-ce qui se passe? Et on essaie de voir dans ce qu'ils vont faire à travers le livre des Actes, ce que les apôtres vont enseigner, c'était quoi l'adoration pour eux, d'accord? Et on a dit, ils vont au temple, tout est accompli. Alors, au début, ils vont au temple pour prier, ils vont au temple pour avoir des enseignements, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on a mentionnées. Il y a une relation qui reste avec le temple, mais en même temps, assez vite, ils vont être chassés du temple. Et ça semble pas poser un gros problème, dans le sens que ça entraîne les persécutions, mais au niveau de leur vie d'adorateur, ça confirme que le temple n'est pas nécessaire. Ce qui va les amener, évidemment, à être chassés du temple, c'est ce qu'ils vont dire par rapport à Jésus-Christ. Alors, une des choses qu'on a commencé à voir ensemble, c'est la place que va prendre la personne de Jésus dans la prédication. L'espace que va occuper Jésus dans ce que les chrétiens vont dire, c'est un changement profond au niveau de l'adoration. Dans l'Ancien Testament, tu t'approchais de l'Éternel. Là, vous vous rappelez, lorsqu'on est allé voir ce que Étienne fait, ce que Étienne dit, Dans dans Acte 6, lorsqu'on a lu le discours d'Étienne, on voit comment Étienne s'adresse à Jésus. Et on va le voir un petit peu plus ici, mais Jésus prend toute une nouvelle importance. Il y a un nouveau personnage qui apparaît au centre de l'adoration. Dans l'Ancien Testament, je m'approchais de l'Éternel. Maintenant, j'ai une nouvelle personne qui apparaît au cœur de l'adoration. C'est Jésus-Christ. Et comme on a commencé à le voir, les croyants vont vraiment placer Jésus au centre de leur adoration. Il est l'objet de leur adoration. Ça vient changer, c'est quoi être un adorateur en esprit et en vérité? Tu as une nouvelle personne à adorer. C'est le Fils incarné, d'accord? On a parlé un petit peu du rôle de l'Esprit-Saint. Oui? Est-ce que ce n'était pas plus facile à cette époque-là d'adorer Dieu que maintenant? Dans quel sens? Au moment où Jésus était présent? OK, c'est une bonne question. Diane pose la question. Est-ce que ce n'était pas plus simple au moment où Jésus était présent physiquement d'adorer l'Esprit-Saint? D'adorer Dieu, je m'excuse. J'étais en train de me dévoiler en disant l'Esprit-Saint. Ben, la réponse est non. Parce que tant que Jésus n'est pas parti, l'Esprit-Saint n'a pas été envoyé. Donc, dans un sens, si l'adoration, c'est quelque chose d'humain, de psychologique, ben, tu vas dire que c'est plus facile d'adorer quelqu'un s'il est devant toi. Humainement, psychologiquement, hein, ça it makes sense. Ça se tient. S'il est là, il est plus facile d'adorer que s'il n'est pas là. Mais si être un adorateur, c'est être poussé par l'Esprit de Dieu qui vient de changer à l'intérieur, et si l'Esprit de Dieu n'est envoyé que lorsque le Fils s'en va au Père, ben non, c'est plus compliqué d'adorer tant que tu n'as pas l'Esprit. Voilà. Maintenant, on voit qu'il y avait une influence. D'accord, il y a des actes d'adoration. On voit qu'il y avait une influence de l'Esprit. On voit déjà qu'il était en train de les attirer. Je pense un peu comme l'Esprit pouvait travailler dans l'Ancien Testament. Et c'est pour ça que David va écrire des psaumes fantastiques. L'Esprit venait sur le roi, sur un prophète, tout ça. Mais la réponse, c'est non. On serait tenté de le croire. Je dirais que c'est une pensée psychologique un petit peu. Puis on a besoin de se rappeler que c'est faux. Parce que humainement, on a tendance à aller là. Hein? On voudrait le voir, on voudrait le toucher. Puis là, ça serait tellement plus simple. La réalité, c'est qu'ils n'avaient pas l'Esprit-Saint, puis nous, on a l'Esprit-Saint. C'est plus simple maintenant qu'à l'époque. Alors, il y a tous ceux qui ne l'ont pas du tout reconnu. Mais même dans le cas de ses disciples, ce ne serait pas juste, bibliquement, de dire que c'était plus simple parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit-Saint en eux. D'accord? Et ça pose toute une question parce que souvent, on est déçu par nous-mêmes. On est déçu des changements qui sont tellement lents dans notre vie que là, on a tendance à se dire, « Oui, mais ça aurait été plus simple à l'époque. » Tu sais. Puis là, il était là. Puis quand j'ai des doutes, je vais aller poser des questions au lieu de lire les Écritures puis de dire, « Tu veux-tu me parler, s'il te plaît? » Mais en faisant ça, je suis en train de manquer le bateau au niveau de l'œuvre de l'Esprit. C'est dit dans les Écritures, je peux être rempli de l'Esprit. Alors peut-être que je l'ai attristé, c'est peut-être pour ça. Faut pas que je cherche la problématique dans le fait que je le vois pas. Le problème est peut-être dans le fait que j'ai un péché dans ma vie et je suis pas rempli de l'Esprit. C'est peut-être là qu'est le vrai problème. Je suis en train de déplacer le problème, d'accord? Oui, Joël. Oui, c'est ça. Mais on a besoin de croire. On a besoin de croire la parole de Jésus lorsqu'il dit ça. Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. D'accord? On a besoin de le croire. On a besoin d'avoir foi dans l'œuvre que l'Esprit-Saint peut faire dans nos vies pour nous transformer et qu'on peut vraiment être des adorateurs même si on ne peut pas toucher à Jésus, même si on ne peut pas toucher au trou dans ses mains, même si on ne peut pas le voir. D'accord? Oui. Oui, définitivement. Ils n'avaient pas tous les enseignements des apôtres. C'est une des choses qu'on va voir ensemble ce matin. Alors, une autre des choses qui change profondément, justement, avec le Nouveau Testament, c'est la venue de l'Esprit. D'accord? Je suis dans mes notes de 5 à la page 4. Je sais que c'est peut-être pas tout le monde qui les avait. Je fais juste une petite révision. La venue de l'Esprit Saint vient transformer en profondeur qu'est-ce que c'est un adorateur, puisqu'on a un esprit qui habite en nous. On l'a mentionné, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qui disait qu'un jour, je leur donnerai mon esprit. Mais si ça, ça ne vient pas changer ce que c'est, ce que nous sommes comme adorateurs, on a un problème. C'est vraiment ça qui est en train de se transformer. L'Esprit vient habiter en nous. Et je vais à la page... En fait, si vous allez dans les notes 5B, c'est la page 2. Et si vous êtes dans les notes 5, celle-là, cette page-là, elle se répète dans les deux notes. Là. On va aller avec « Hommage et service sous la nouvelle alliance. Hommage au Seigneur glorifié. » Et je pense qu'on avait commencé ces notes-là au dernier cours, mais je vais les réviser pour les compléter. Un des termes qu'on avait vu dans l'Ancien Testament qui est important, si vous vous rappelez, on citait des mots grecs dans l'Ancien Testament parce qu'on partait de la Septante dans l'Ancien Testament, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, pour voir lesquels vont être utilisés encore dans le Nouveau Testament. Êtes-vous avec moi? 2, 3 sont avec moi. Dans l'Ancien Testament, on va voir la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, pour voir le langage qui est associé avec l'adoration, puisque lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, c'est en grec. Puis là, on dit, est-ce que les mêmes mots sont là? Alors, un mot clé, proskuneïn, toute la notion de prosternement, se prosterner. On avait commencé à voir la dernière fois que ce n'est pas présent, très, très peu présent, pour être associé à l'adoration dans le Nouveau Testament. Toute cette idée de se prosterner. Et tout cela semble avoir du sens puisque Christ est parti. D'accord? Les dernières fois où on voit ça vraiment associé à l'adoration, c'est lorsqu'ils vont se prosterner devant le Christ ressuscité. Ensuite, on va retrouver ça plus dans l'Apocalypse. D'accord? On est en train d'adorer en esprit et en vérité. Je vais me prosterner devant qui? Intérieurement. Alors, on l'avait vu dans l'Ancien Testament, on avait vu quelques passages qui nous disaient même qu'il y avait une évolution dans le sens du mot prosternement. Ça en est venu aussi à signifier une attitude intérieure. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas prier à genoux, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se coucher par terre dans mon bureau ou dans ma chambre quand je suis en train de prier. Je pense qu'il y a des choses, des fois, qui expriment ce qui se passe dans notre cœur, puis c'est bien comme ça. Mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'on examine au niveau de la pratique, le prosternement est à peu près en train de disparaître puis n'est pas associé avec l'adoration. Si je veux faire un lien pratique, ça veut dire que lorsque dans une église, on doit avoir des gestuels, on doit avoir des choses qui doivent se faire. Il y a un courant aux États-Unis qui s'appelle des emerging churches. Okay? Puis dans le courant des églises émergentes, ils essaient comme d'aller chercher les choses qui vont éveiller une notion religieuse dans la société. Alors, il y a tout un mouvement d'églises évangéliques qui sont en train aussi de glisser puis sont en train de sortir s'éloigner un peu des Écritures, mais certaines d'entre elles ne le font pas. Mais ce qu'ils font, c'est qu'il y a des chandelles. Fait que les lumières sont assez tamisées, tout ça, puis il y a beaucoup de chandelles qui sont allumées parce que la chandelle, le lampion, tout ça, c'est associé avec le culte. C'est associé avec l'adoration. Et ils ont observé que lorsqu'ils mettaient ça dans la salle, les gens étaient comme plus disposés à adorer. Il me semble que ça va profondément à l'encontre de ce qu'on voit comme direction dans le Nouveau Testament. Des artifices extérieurs pour disposer à l'adoration ne semblent pas concorder avec le Nouveau Testament. Est-ce que je l'ai dit clairement? D'accord? Des éléments qui vont nous conditionner psychologiquement à dire, alors ça pourrait être des mouvements, ça pourrait être, puis je veux dire, vous me voyez, là, moi je suis en avant, là. Il y en a pas beaucoup qui branlent les fesses comme moi, là, fait que c'est pas ça le problème, d'accord? Alors, OK, Diane pose la question, quelle va être la différence entre les chants qu'on va chanter qui nous disposent, puis admettons des chandelles, des mouvements particuliers comme se prosterner. Mais la différence majeure que je vois, c'est ce qui est présent ou non dans le Nouveau Testament. Alors la louange, les hymnes, les cantiques, les prières, les exhortations, les encouragements, c'est tout associé avec l'adoration. C'est là dans le Nouveau Testament. Mais des mouvements particuliers, des conditionnements extérieurs, le fait que ça nous prendrait... Parce que vous comprenez qu'avec le temple, j'ai Antoine, avec le temple, il y a quelque chose tantôt, là, on l'a dit, Diane a posé la question, elle a dit, Est-ce que c'était quand même pas plus simple pour les disciples d'adorer le fait qu'ils voyaient Jésus? Bien, le temple, il y a un petit peu de ça aussi, hein? Tu sais, je veux dire, moi, la première fois, je suis allé à l'oratoire Saint-Joseph. J'étais chrétien, je suis allé visiter ça pour l'histoire. Je dis quand même, quand tu rentres là, c'est... Moi, j'aime l'architecture. Je m'en vais m'asseoir, là, puis je vous dis, ça ne me prendrait pas beaucoup pour m'asseoir dans une église catholique puis dire, « Ah, Dieu est ici. » Mais je veux dire, je vis ça quand je suis dans la forêt, puis je vis ça quand je suis devant un coucher de soleil. D'accord? Alors, je pourrais l'associer, la fin de cette association-là. Je ne semble pas la voir dans le Nouveau Testament. D'accord? Oui, Annie. Je vais juste répéter un petit peu là, ce que tu as dit pour l'enregistrement, parce que je suis en train de t'écouter, j'oubliais que les autres ne l'entendront pas. La question qu'Annie pose, c'est tout le fait que il y a quand même une réalité, c'est peut-être plus difficile pour nous dans un centre d'achat d'avoir le sentiment qu'on s'en vient adorer, puis il faut qu'on répète aux gens, vous en venez adorer, puis tout ça, alors que ces artifices-là qu'on pouvait trouver dans l'Église catholique, admettons, pouvaient donner une certaine prédisposition. C'est un peu ça le sens de ton commentaire? C'est ça? Le bâtiment en tant que tel. Ah oui, absolument. Les bâtiments sont impressionnants. Absolument. Maintenant, je vais juste répondre à la question, Denis. Je vais essayer de me faire le plus clair possible. Oui, la question d'Annie, c'est est-ce qu'il y a un problème à ça? Est-ce qu'il y a un problème à mettre une atmosphère quelconque si ça aide les gens? Ma réponse, c'est oui et non. Il n'y a pas plus de problème à ça que pour moi, c'est plus facile, puis je ne suis pas ironique quand je dis ça, je suis très sérieux, c'est plus facile pour moi de faire mon culte dans la forêt que de le faire dans mon bureau. C'est vrai, quand je vais avec ma retraite deux fois par année avec mes amis, on est dans un chalet. Puis lorsque la saison le permet, puis que je peux partir marcher une heure et demie dans le bois, j'ai des temps de prière absolument fantastiques, extraordinaires. J'ai un sentiment d'être seul avec Dieu enfin. Mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème que ça me prenne tous ces arbres-là, puis le son des oiseaux pour me sentir près de Dieu? Il y a quand même un petit problème avec ça, parce que je veux dire, il faut que je vive en ville. Fait que tout le reste de l'année, je vais faire quoi lorsque je suis dans ma chambre? Donc oui et non. Oui et non, Dieu nous a créés Dieu nous a créés avec des sens, puis on peut voir toutes ces choses-là. Puis je suis pas en train de dire qu'il faudrait absolument comme mettre des graffitis sur les murs, puis que ce soit noir ici, puis laisser des déchets par terre. Puis là, on va adorer le Seigneur. On est des vrais. C'est pas ça que je suis en train de dire, vous comprenez? Dans une atmosphère pourrie, nous autres, c'est intense avec le Seigneur. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a cette prédisposition dans l'homme à être un être qui veut des rituels, un être qui est religieux. Et il y a quelque chose que Jésus attaquait en profondeur. Et pour répondre un petit peu à ta question, oui, un problème, parce que ça risque de m'amener à avoir le sentiment que lorsque je m'en viens dans un endroit parce qu'il y a une atmosphère, là, il y a quelque chose qui est plus de l'adoration que lorsque tu as pris un temps avec Esther cette semaine puis vous travaillez sur des partitions. Mais bibliquement, quand vous étiez en train de travailler sur des partitions, vous étiez en train de poser un acte d'adoration tout aussi puissant que lorsque tantôt, tu vas fermer les yeux et tu vas te mettre à louer le Seigneur. Et ça, c'est ce qu'on va aller voir ensemble dans le Nouveau Testament. Alors, il y a un problème, là, parce qu'on est en train d'associer l'adoration à un moment de... Ah oui, il y a quelque chose, là. Il y a des feelings qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe quand Gilles Roy s'en vient ici, prend la mop et commence à laver le corridor? Parce que ce qu'on va voir ensemble, c'est que selon le Nouveau Testament, ça, c'est de l'adoration. Alors, Diane pose la question. Les moments d'extase qu'on peut avoir, ça fait partie de l'adoration? Oui. Oui. Ce que je dis, c'est que... Puis, dans le fond, vous allez le comprendre si je l'illustre comme ça. Quand quelqu'un rentre ici puis il me dit, Yannick, j'ai partagé l'Évangile avec mon cousin puis il a accepté le Seigneur, mais le moment d'extase, je devrais le vivre là. Beaucoup plus que parce qu'il y a 6 lampions qui sont allumés ici, il y a une petite musique guéling-guéling puis que là, je pars. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de mépriser ça. Je ne suis pas en train de mépriser le fait qu'on s'assemble, puis il y a de la musique, puis on est en train de louer Dieu. Ce que je suis en train de dire, c'est que profondément, c'est pas ça que Christ recherche dans le Nouveau Testament. Ce que Christ recherche, c'est que je me fais frapper ma voiture par un autre char au coin de la rue, puis au lieu de m'emporter avec de la colère, je vais sortir de la voiture, je vais aller voir la personne, puis je vais dire, êtes-vous correct? Êtes-vous correct? Est-ce que vous êtes correct? Savez-vous que le Seigneur nous a protégés, là, parce que vous auriez pu mourir, là? Mais Dieu avait sa main sur nous, là? Comprenez? Fait que vous comprenez? Là, je suis en train d'être un adorateur en esprit et en vérité. Beaucoup plus profondément. Ça va? Oui.
Mm-hmm.
Oui. Ce que Louise dit, c'est que dans l'Église catholique, c'est la théologie veut ça. C'est ça qui est enseigné. Hein? Il y a un autel, il y a un tabernacle, il y a une place où tu mets le Christ incarné dans l'hostie. Hein? Donc, tu t'en vas l'adorer. C'est vraiment, tu t'en vas adorer. Il est là, il est présent. D'accord? C'est ça que tu t'en vas faire. Pardon? Oui, exactement. Alors, il y a toute cette adoration-là. Maintenant, dans la théologie du Nouveau Testament, on adore en esprit et en vérité. Je pense que toute notre discussion, ce que ça fait ressortir, c'est que naturellement, on a tendance à être religieux. D'accord? Et moi, personnellement, j'aime mieux ces éclairages-là que les néons. Puis on pourrait prendre les néons, on a l'option entre les deux, mais vous mettez les autres, puis pour moi, je suis dans un réfrigérateur. Fait que moi, j'aime mieux que ce soit celle-là. Puis honnêtement, j'ai hâte que les tuiles soient peinturées. Non. Tu vois, j'ai eu comme l'impression qu'il y a quelque chose qui était parti de moi, là. Ah, merci. Fait que, vous comprenez, naturellement, c'est tout là. Je suis pas en train... Il faut pas qu'on nie ce qu'on est comme être humain. Il faut comprendre ce que le Seigneur veut qu'on soit. Je pense que c'est ça, l'idée. Une dernière intervention. Oui, Bruno. Alors, dans ce sens-là, ouais. Et donc, je pense que lorsque je m'en vais à Washington, puis je vois toutes les ambassades qui ont été construites là-bas, ça pourrait produire la même chose. Et si ma théologie est solide, ça va produire la même chose, d'accord? Je ne vais pas associer ça au fait que là, au contraire, je veux dire, le fait que je rentre dans une église catholique, puis que je suis là, puis je dis, « Oh, ça me prendrait pas grand-chose de penser que Dieu est plus ici. » Est-ce que je suis pas en train de trahir le fait qu'on a oublié ce qu'enseignait l'Église catholique? Il y a plein d'idoles là-dedans, là. La vérité, là, c'est qu'il y a un culte, un paquet d'idoles dans cette affaire-là. Vous comprenez? Est-ce que c'est pas en train de trahir le fait qu'on a oublié le message qu'il y a derrière? Fait que oui, c'est l'architecture, puis je suis pareil, identique. Mais en même temps, si j'allais voir une place où il y avait une statue qui aurait été monumentale, absolument grandiose, mais qui était totalement obscène, peut-être que je serais moins comme « Oh! » Tu sais, peut-être que je verrais le péché en pleine face. Mais lorsque je rentre dans une église catholique, c'est là aussi. Fait que l'architecture, ça, je pense que c'est notre prédisposition. Puis, il y a quelque chose à reconnaître de ce que Dieu nous a donné comme talent. Mais ça ne devrait pas aller beaucoup plus loin qu'un coucher de soleil. D'accord? Je suis en train d'adorer le Créateur, pas la créature. C'est bon? Ouais, une bonne discussion, ça. Donc, tout ça pour dire que chez les premiers disciples, on n'assiste pas vraiment au prosternement. Et donc, on voit pas vraiment de rituel. D'accord? On va être beaucoup plus sur le contenu et l'action que sur des rituels et des choses comme ça. Et un des indices assez clairs, c'est cette espèce de disparition du prosternement dès le début du livre des Actes. Je reviens avec la même réponse. Là, Diane demande qu'est-ce qu'on fait avec la musique et tout ça. C'est que je vois la louange dans le Nouveau Testament. Je vois l'idée que les chrétiens sont là, même au-delà de ça. Les chrétiens sont là pour s'instruire par des cantiques. Ça doit faire partie de notre instruction. Donc ça, c'est là. Mais c'est tout à fait vrai que si on a besoin, excuse-moi Bruno, du drum, si on a besoin du piano, puis si on a besoin de ces choses-là pour se sentir près de Dieu, c'est probablement la démonstration qu'on n'est pas vraiment près de Dieu. Puis dans un sens, c'est pas tout négatif. On vient à l'Église pour revenir. D'accord? On se rassemble pour revenir. J'ai pas eu une bonne semaine. J'ai pas été près du Seigneur. Je m'en viens et puis les dirigeants de louange, les musiciens me conduisent, me ramènent à la croix, me ramènent à Christ. C'est très saint. D'accord? Ils me ramènent. Si je me suis éloigné, donc que je me sente plus près à travers la louange, ben oui. Oui, c'est là pour ça. On est là pour s'exhorter, s'encourager les uns les autres par la louange. Mais là, on est en train d'aller vers la louange, puis c'est un des actes d'adoration qu'on va voir plus loin. Alors, important, si vous êtes à la page justement 2 de la leçon de cette semaine ou l'autre, hommage au Seigneur glorifié. Il y a quelque chose qui apparaît dans la confession de foi des premiers chrétiens. D'accord, j'ai commencé à en parler, la personne de Jésus-Christ. Si vous allez au paragraphe, cependant, nous voyons apparaître dans les premières prédications, d'accord, c'est en caractère gras, la confession de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur et Sauveur. Nous retrouverons ces confessions de foi et possiblement des débuts d'hymnes chez Paul. Il y a quelques passages là, qu'on pourrait aller voir ensemble où, lorsqu'on les étudie dans leur structure, tu as un poème qui est là. Et pour le mieux qu'on peut comprendre, c'est que Paul récupère à ce moment-là des choses qui commençaient déjà à être chantées par les chrétiens, tout probablement. D'accord? Parce qu'on a trouvé des hymnes chez les chrétiens qui ressemblaient à des structures poétiques comme celle-là. Des fois, l'autre terme que vous avez peut-être entendu, c'est des doxologies. Des fois, Paul est en train d'écrire, puis à un moment donné, là, t'as l'impression qu'il oublie tout le monde, puis il commence à adorer. Puis, on appelle ça une doxologie. Il part en adoration. C'est ça, il est en train d'adorer. Il passe dans un mode d'adoration. Et probablement qu'on a des débuts d'hymnes, de cantiques chrétiens. Mais il y a un personnage qui apparaît dans ces hymnes-là, qui n'était pas là dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Il y a une personne qui apparaît là de manière unique. Tournez avec moi pourquoi j'ai mis le... Ah oui, OK, c'est ça. Tournez avec moi, on va aller voir comment est-ce que Étienne prie dans Actes. Acte 7. Non, c'est un homme de Dieu, un croyant. Alors, Étienne, acte 7. Et quelqu'un qui voudrait tourner, ben, je vais vous lire Luc 23, 34. Je vais juste vous lire ça. Avant qu'on lise Étienne. Luc 23, 34. Lorsque Jésus est crucifié, la prière de Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent. Et ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » OK? On s'en va dans Acte 7. Verset 59. C'est Étienne qui est lapidé. Étienne dit, et il lapidait Étienne qui priait, il disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Il y a quelque chose de fort qui est en train d'apparaître ici, là. Étienne est en train de s'adresser au Seigneur Jésus, comme Jésus s'adressait au Père. Dans l'Ancien Testament, Tu te serais pas adressé à un homme qui a marché parmi les vivants en disant « Reçois mon esprit, pardonne leurs fautes, ne leur impute pas ce péché. » D'accord? Il y a une personne qui est en train d'apparaître au cœur de l'adoration, au cœur des confessions de foi, au cœur de la vie de prière. Et Étienne s'adresse au Seigneur Jésus comme Jésus s'est adressé à Dieu le Père. Ça, c'est un changement majeur là, dans l'adoration. D'accord? C'est un changement énorme dans notre adoration. C'est une bonne question. Juste au verset 59, « Seigneur, Jésus reçoit mon esprit. » Et donc, une des choses qu'on voit apparaître, là, on va regarder quelques autres textes, mais qu'on voit apparaître dans le Nouveau Testament, c'est que la majorité du temps, quand le terme « Seigneur » est employé dans le Nouveau Testament, c'est associé à Jésus. La majorité du temps. Ce qui est déjà beaucoup, hein, parce qu'on est en train de parler de l'Éternel. On est en train de parler d'un langage qui était utilisé dans l'Ancien Testament essentiellement pour Dieu. Oui, mais en même temps, Jésus a dit, « Va, tes péchés te sont pardonnés. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. » D'accord? Donc, Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est clair. Il l'a enseigné lui-même de sa propre bouche. Et là, il vient de l'appeler Seigneur Jésus. Là, il reparle du Seigneur. Mais à la limite, je veux dire, si à ce moment-là, Étienne, tout d'un coup, il pensait au Père, bien, il vient de dire Seigneur Jésus, puis là, il va dire Seigneur Père. Écoute, c'est aussi hot, là. Tu comprends le fait qu'il va se servir du terme Seigneur alternativement pour Dieu le Père ou pour le Fils. Wow! C'est déjà énorme. Mais tranquillement, Camille dit, c'est un texte qui certifie la divinité de Christ. C'est, comme je vous dis, c'est... Oui, comme je vous dis, c'est comme souvent, c'est par un million d'indices qu'on en vient affirmer la divinité de Christ. Il y a des textes qui sont clairs comme l'eau de roche, mais tu peux pas lire le Nouveau Testament avec un esprit libre puis ne pas en venir à te mettre à adorer Jésus. Fait que par tous ces indices-là, c'est ce qui scandalisait les Juifs, c'est le fait que lui prétende qu'il peut pardonner les péchés. Il y a juste Dieu qui fait ça. D'accord? Mais je veux dire, un musulman va comprendre ça. Allez dire à un musulman, Jésus peut pardonner les péchés. Mais non, c'est Dieu qui fait ça. Puis Jésus, c'était un homme. C'était un prophète. Il est envoyé. C'était pas Dieu. Non, non. Jésus peut pardonner les péchés. C'est Dieu le Fils. D'accord? Alors, tournez dans Romains 1, 7, s'il vous plaît. Lorsqu'on a des doutes, d'accord, il y a plein de monde là, qui, lorsqu'on se convertit, on commence à lire les Écritures, puis là, les premières fois qu'on entend parler de la divinité de Christ, on dit qu'il y a des textes où Jésus, sans même refuser certains honneurs qui sont dus à Dieu. Donc, on lutte avec ces textes-là. Plus tu lis le Nouveau Testament, plus tu te rends compte que, disons que Christ accepte sa position dans la Trinité. Et ça, c'est son humilité, mais la réalité, c'est que c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et comme Jean l'exprime d'une manière très puissante. Romains 1, 7. D'accord, une des choses qui va évoluer, donc, c'est la compréhension de la prière, la théologie de la prière. Jésus va devenir une personne à qui on s'adresse. Dans la prière, Romains 1, 7. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ donne la grâce tout autant que Dieu notre Père. C'est énorme, là, d'accord? Quand on cherche les discontinuités, les changements avec l'Ancien Testament, c'est majeur. C'est énorme ce qui est en train de se passer ici. Je vais vous lire le paragraphe qui est un peu technique à la page 3 de vos notes, mais je pense quand même que ça résume très, très bien. Ça, c'est tiré du livre. Au haut de la page, ça commence par « reconnu comme l'unique ». D'accord? « Reconnu comme l'unique exécuteur du plan de salut de Dieu, comme fils de Dieu siégeant à la droite du Père, Jésus-Christ fut adoré à la manière dont on adorait Dieu dans la foi juive. On le prie, on lui demande de nous pardonner. Cette attitude n'est ni tardive, ni le fruit de l'influence de la pensée païenne, mais naquit parmi les premiers judéo-chrétiens de Palestine. Il faut que vous compreniez que si vous jasez avec un musulman, par exemple, puis que vous parlez de Jésus. Jésus, c'est un personnage très important dans l'islam, d'accord? Pas autant que Mahomet dans les faits, là, mais c'est un personnage très important dans l'islam. Et ce qu'ils vont vous dire, c'est qu'ils vont dire, Jésus, nous, on a énormément de respect pour Jésus. OK, bien, il est mort sur la croix pour tes péchés. Non. Ça, c'est des transformations que le christianisme a fait. Les quatre évangiles, c'est quatre évangiles qui ont été écrits par ses disciples pour nous présenter leur compréhension de Jésus. Nous, on croit dans l'évangile de Jésus. Celle-là, elle a été perdue. D'accord? Mais toute cette idée que Jésus acceptait d'être adoré, que Jésus est Dieu le Fils, ça vient pas de la Bible. Ça, vous avez pas ça dans l'Ancien Testament. C'était pas ça que Jésus a enseigné sur l'humain. D'accord? Ça, c'est ce que les musulmans vont vous dire. Et donc, ils vont vous dire que c'est de la théologie qui s'est développée plus tard dans l'histoire. Les chrétiens ont comme bonifié le personnage pour qu'il devienne plus « wow », puis que là, ça attire les gens à ce culte-là, puis « wow ». Vous comprenez? Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est là dès le début de l'Église. Dès le début de l'Église, c'est leur compréhension de Jésus-Christ. Voici ce qu'il est. D'accord? Il s'agissait d'une évolution remarquable du monothéisme juif traditionnel qui ne détruisait pas pour autant la foi fondamentale en un Dieu unique. Ça, c'est très important, là. Parce que c'est une des choses qui nous est reprochée. Si tu crois que Jésus, c'est Dieu le Fils, tu n'es plus monothéiste. Tu ne crois plus en un seul Dieu, il y en a deux. Puis si en plus l'Esprit-Saint, c'est une personne et qu'il est Dieu, ben là, c'est trois. Toi, tu es polythéiste. Toi, tu crois trois dieux. Non. On a un mystère. On est pris avec un mystère. On a une personne. On a trois personnes en un Dieu. D'accord? En résumé, ce fut une transformation sans précédent dans la piété monothéiste destinée à inclure aux côtés de Dieu un second objet d'adoration, à côté de Dieu le Père, Dieu le Fils. Ce rapport au Christ ne se limitait nullement à la prière ou à la louange, mais comportait l'obéissance quotidienne qui distinguait les chrétiens de tout autre groupe religieux de ce temps. Alors les chrétiens vont prier le Seigneur Jésus, vont obéir au Seigneur Jésus, vont suivre le Seigneur Jésus, vont demander au Seigneur Jésus de leur pardonner. Oublie ça, le judaïsme, et jamais ils vont vous suivre là-dedans, à moins qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. D'accord? C'est une transformation en profondeur, là. C'est profondément différent de ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Et cette personne-là devient l'objet de notre adoration. Maintenant, je reviens avec ma petite question pratique que j'ai posée déjà quelques fois. Si Jésus est tellement au cœur de l'adoration puis tellement au centre de l'adoration, il doit être au centre de la prédication. Il doit être au centre de nos enseignements. Il doit être au centre de ce qu'on dit. On ne peut pas en venir à se tanner de Jésus. Je comprends qu'humainement, on est tous pécheurs puis on peut venir à dire, oh, mais là, on peut se passer à autre chose. Je comprends, mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Il doit rester au cœur. Il doit rester au centre constamment. Il doit revenir. Et donc, on voit Jésus. Pour aller en termes d'interprétation de la Bible, on voit Jésus comme la clé d'interprétation de toutes les Écritures. D'accord? Si Jésus est l'accomplissement du temple, essayez de penser tout ce que ça peut vouloir dire dans l'ensemble des Écritures. Si tout le temple s'accomplit en Jésus-Christ à sa mort et sa résurrection, ben quand tu veux comprendre les Saintes Écritures, tu prends une clé qui s'appelle Jésus-Christ puis tu t'en vas vers les Saintes Écritures. Et là, tu vas relire tout à la lumière de Jésus-Christ. C'est ça qu'il a dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. D'accord? Tu vas relire tout à la lumière de Jésus-Christ et tu vas voir les choses différemment. Et c'est ce qui fait, vous allez le voir dans la prédication, si vous ne l'avez pas déjà remarqué, mais l'Évangile est prêché presque tous les dimanches dans la prédication. Parce que si on ne revient pas à ce qu'il a fait, à la grâce qu'il nous a acquis, ça nous amène toujours ailleurs. On redevient religieux, on embarque dans des devoirs, on ne le fait pas par grâce, on ne le fait pas parce qu'il nous a sauvés, on le fait pour se justifier. Naturellement, on est des êtres religieux et on revient constamment à ça. D'accord? Donc, on va toujours amener Christ au centre. Et si vous parlez avec un chrétien puis qu'il a l'impression que ça l'agace, ça l'irrite, vous avez déjà probablement un indice où est-ce que vous devez aller avec lui si vous voulez l'accompagner. Il vit des choses, puis il est comme tanné de tout ça, puis il voudrait passer à un autre sujet. Probablement que vous avez un bon indice où vous devez aller avec cette personne-là. Vous allez devoir chercher à vous rendre à la croix avec lui, puis à le ramener à la croix. Il y a quelque chose qui a perdu, là. D'accord? Servir le Seigneur. Alors, il mentionne à la fin, Jésus va devenir tellement important qu'on va servir le Seigneur. Maintenant, cette idée du service qui est importante dans l'Ancien Testament, est-ce que vous vous rappelez dans nos thèmes de l'Ancien Testament, cette vie différente, c'était servir le Seigneur. C'est un des thèmes qui revient dans le Nouveau Testament. Dans Luc, Zacharie, au moment de l'annonce de la naissance, va dire ceci dans son cantique. « Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, je suis à la page 3, et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. La venue de Jésus-Christ doit permettre au peuple qui va croire, de recommencer à servir Dieu. D'accord? Un des objectifs dans l'Ancien Testament, c'est un peuple qui a été racheté, c'est un peuple qui a été appelé à une vie différente où on va servir le Seigneur. Mais la venue de Jésus-Christ est la clé pour qu'on commence à servir le Seigneur. Où je m'en vais avec ça, c'est que dans le livre des Actes, à travers tout le Nouveau Testament, le service des croyants est un acte d'adoration majeur. Maintenant, nous, les mots, les langages, ministère, service, tout ça, ça glisse facilement dans l'ordre des devoirs chrétiens. D'accord? Dans l'Ancien Testament, Israël a été racheté d'Égypte, conduit dans la terre promise pour qu'il puisse servir Dieu et en servant Dieu, proclamer son nom. D'accord? Ici, Zacharie, dans son cantique, dit « La venue de Jésus va enfin permettre » au peuple de Dieu de commencer à servir Dieu. Lorsqu'on cherche c'est quoi un adorateur en esprit et en vérité, bien, j'ai une clé là, qui est en train de s'ouvrir. C'est quelqu'un qui va servir Dieu. On va aller voir comment les chrétiens servaient Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il y en a que j'ai perdu? Gênez-vous pas. Hein? Je sais que je suis compliqué, ma femme me le dit tout le temps. Juste à me faire signe quand je vous parle. Okay? Souvent même après mes messages, on me le dit. Ça c'est plus dur, là, mais c'est la vérité. Acte 18-12. Acte 18-12-13. On va juste aller le voir dans le contexte, là, parce que je réalise que ça vous aurait aidé pour Zacharie qu'on aille le lire dans le contexte. C'est les Corinthiens, les Juifs de Corinthe qui sont fâchés contre Paul, d'accord, et qui portent des accusations. Alors, acte 18-12. Pendant que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » De quoi il parle? De quoi il est en train de parler là, lorsqu'il dit ça? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est quoi leur accusation? Servir Dieu d'une manière contraire à la loi. De quoi ils parlent? Définitivement, mettre l'accent sur Jésus. Je veux dire, est-ce que Paul se promenait dans la ville de Corinthe et il disait, sortez vos balais, on va aller servir Dieu. De quoi ils parlent? C'est quoi le service? Servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Ça veut dire entrer en communion avec Dieu, puis... Alors, Paul est en train d'enseigner, vous êtes ici à Corinthe, puis vous pourriez entrer en communion avec Dieu sans vous rendre au temple, juste en passant par Jésus-Christ. Et la manière que les Juifs répondent à ça, il est en train de dire qu'on peut servir Dieu autrement que d'une manière contraire à la loi. Est-ce que ça pourrait être ça? D'accord? Je veux dire, le service, c'est quoi? Là? C'est pas faire l'entretien du centre d'achat. Il n'y en a pas de centre d'achat. D'accord? C'est quoi le service? C'est être en communion avec Dieu, d'une manière contraire à la loi. Mais c'est un thème qui est encore important. D'accord? Acte 24, 14. Alors là, c'est Paul qui est en train de se défendre. Il dit, je vais commencer à 13, « Il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant que tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. » Verset 14, il dit, « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie. » Alors, le service de Dieu demeure important. Paul servait Dieu en annonçant l'Évangile, en bâtissant des églises, il servait Dieu. D'accord? Dans l'Ancien Testament, le service à Dieu est beaucoup associé au service dans le temple. C'était un privilège spécialement des prêtres, des sacrificateurs. Beaucoup. D'accord? Maintenant, on est en train de voir qu'est-ce que le service va devenir dans le Nouveau Testament. Acte 13, 2. Et là, ce que je veux qu'on voit ensemble, c'est servir Dieu, c'est venir adorer Dieu en passant par Jésus-Christ. Pour Paul, servir Dieu, c'était proclamer Jésus-Christ. Ici, dans Actes 13, 2, on est dans l'église d'Antioche. Puis là, il y a les prophètes, les docteurs, tout ça qui sont assemblés. Puis au verset 2, c'est écrit, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit... » Alors, dans leur cas, c'est des prophètes, des docteurs, ils étaient en train de servir à travers leur ministère. Si ce sont des enseignants, c'est en train d'enseigner. Si s'ils devaient se consacrer à la prière à ce moment-là, c'est en train de faire ça. Mais ils sont en train de servir le Seigneur. Et ça, c'est au cœur de leur adoration. D'accord? Donc, une des différences majeures qu'on a avec l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament, c'est que c'était beaucoup les prêtres, les sacrificateurs qui servaient Dieu au temple. C'était là que le service se faisait. Nous, on n'a plus de temple physique à un endroit puisque Christ a accompli tout ce que le temple accomplissait. Notre service devient un acte d'adoration où que nous soyons. On est en train de servir le Seigneur, spécialement lorsqu'on annonce Jésus-Christ, spécialement lorsqu'on prêche l'Évangile, qu'on annonce l'Évangile, mais on est en train de servir et ça, c'est un acte d'adoration. Oui, Camille. Oui, on est un peuple de prêtres, de sacrificateurs. Pourquoi est-ce qu'on développe cette idée-là? C'est juste, là, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Mais pourquoi on développe cette idée-là? C'est parce qu'on essaie de faire ressortir le fait que si on est des adorateurs en esprit et en vérité, notre adoration ne se produit pas lorsqu'on va au temple pour adorer. Notre adoration se produit à chaque moment de notre vie lorsqu'on est en train de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour revenir sur notre discussion qu'on a eue au début, si ça me prend mes lampions ici pour pouvoir venir adorer le Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de majeur que je n'ai pas compris sur ce que c'est un adorateur en esprit et en vérité? Et moi je pense qu'on a tous besoin de grandir dans ça. Comprenez, quand quelqu'un m'appelle, puis j'ai eu toute la journée au bureau, j'ai fait des téléphones, tout ça, puis là quelqu'un m'appelle, puis là les enfants m'attendent pour faire des devoirs, puis la personne n'affile pas, mais elle appelle parce qu'elle veut parler au pasteur, puis tout ça, puis là dans mon cœur, c'est « Oh, aïe, 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 j'ai pas le temps. » Mais j'ai une opportunité d'adorer, là. Comprenez, j'ai une opportunité de servir le nom de Jésus-Christ. Puis quand j'arrive à la maison, puis je suis fatigué, puis là je me dis, est-ce qu'on fait un culte en famille? Est-ce que je prends un temps dans les Écritures? Puis mon fils me raconte qu'il s'est passé quelque chose à l'école, puis ça n'a pas bien été, puis il n'a pas bien réagi, mais j'ai une opportunité de l'instruire dans la parole de Dieu. Est-ce que je n'ai pas une opportunité d'être un adorateur en esprit et en vérité à ce moment-là? Comprenez? Puis lorsque mon patron m'arrive, puis mon chiffre est pas mal fini, mais il dit, écoute, tu peux-tu me dépanner? Ça va te prendre 20 minutes de plus, tu vas partir en retard, mais je suis mal pris. Tu peux-tu faire ça? Est-ce que ça pourrait devenir aussi être un adorateur en esprit et en vérité? Est-ce qu'il y a une relation avec mon attitude envers mon employeur, puisque c'est que de plaire au Seigneur? Oui, Paul. Oui, Paul fait juste mentionner, c'est ça, que le culte est beaucoup associé avec un lieu, un endroit dans l'Église catholique. Maintenant, tout ça, c'est pas pour dire que ce qu'on fait le dimanche matin, c'est pas de l'adoration. C'est juste que lorsque tu commences à mettre ça dans sa juste perspective, ça peut t'aider à comprendre c'est quoi un adorateur en esprit et en vérité. Mais à ce moment-là, ça va changer des choses parce que lorsque je suis sur mon chantier ou lorsque je suis sur ma toiture, parce que je parlais avec Mathieu l'autre fois, puis il y a des affaires qui vont pas bien, puis que là, j'aurais le goût de commencer à bénir la toiture, bien, je peux décider de bien faire parce que ce serait mal de mal faire. Mais je peux décider de bien faire aussi parce que je suis rempli de l'Esprit-Saint puis je suis un adorateur en esprit et en vérité. D'accord? Parce que nous autres, on vit différemment. Et on est pécheurs, hein, on s'entend. On se repent. Oui. C'est ça. Annie mentionne l'idée que ce n'est pas juste une situation ou l'autre, c'est à chaque instant, dans le fond. Puis, si vous retournez aux prophéties dans Jérémie, si vous retournez au soupir qu'on entend dans l'Ancien Testament de la part de Dieu, son soupir, c'est quoi? Il dit, les boys, j'aimerais ça que vous soyez vrais. Tu sais, j'aimerais que ce soit une vraie affaire, puis que la loi soit là dans votre cœur, puis à chaque moment, vos attitudes, ce soit un reflet de la personne de Dieu. Mais c'est ça qu'on est en train de dire, dans le fond. On est en train de dire que Jésus est venu l'accomplir et le rendre possible par le fait qu'il nous a envoyé l'Esprit-Saint. Mais profondément, par nature, on va ramener l'adoration à ce qui se passe ici le dimanche matin. On a cette tendance, oui, Louise. Oui, l'obéissance, c'est un acte d'adoration. Oui. Oui, puis ça, on va y venir en fait la semaine prochaine, parce qu'on va terminer ça la semaine prochaine, mais on va voir l'importance de l'enseignement dans l'adoration des premiers chrétiens. Mais je vous rappelle, ce qu'on cherche, ce qu'on est en train d'essayer d'identifier, c'est qu'est-ce qui change dans l'adoration entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça qu'on est en train de chercher. Et ce qu'on observe, c'est qu'est-ce que les chrétiens faisaient de différent. Bien, on a vu qu'il y a une personne nouvelle qui est au centre de leur adoration. Elle est vraiment au centre parce qu'ils vont le prier, ils vont le servir, ils vont lui demander de pardonner leurs péchés. On a vu qu'il y a l'Esprit Saint qui vient nous habiter, qui nous permet de devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Et certainement, devenir des adorateurs en esprit et en vérité, c'est pas juste que c'est plus lié à un endroit, c'est que c'est lié à chacun des moments de nos journées, chacune de nos attitudes, chacun de nos comportements. C'est bon? Que le Seigneur vous bénisse, on continue ça la semaine prochaine. Ça fait plaisir.